Merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Le pape François est donc décédé ce matin. Nous évoquons son héritage ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Car s'il y a bien un mot qui revient pour évoquer le pontificat qui vient donc s'achever pour François, eh bien c'est le mot réformateur. Et effectivement, le pape n'a eu de cesse de bousculer l'Église sur de nombreuses questions, la réforme de la curie, la place des femmes, l'homosexualité ou encore la lutte contre la pédophilie. Mais souvent, ces prises de position se sont heurtées à la résistance de catholiques traditionnels et ces prises de position n'ont pas toujours abouti. D'où notre question ce soir, est-ce que François a fait évoluer l'Église? Quel sera le catholicisme de demain après ce pontificat? Sur quoi débouchera-t-il? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, François Mabille, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au CNRS, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et votre ouvrage, Le Vatican, la papauté face au monde, face à un monde en crise. Nos deux autres invités sont en ligne avec nous. Père Luc Forestier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes prêtre, chercheur associé à l'Université catholique de Lille et théologien. Et Dominique Volton est notre troisième invité. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur de la revue Hermès. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI en cette journée évidemment chargée pour vous. Première question, François Mabille, comment est-ce que vous définiriez ce pontificat qui vient de s'achever pour François? Quelle orientation a-t-il donné et est-ce que, selon vous, François était un pape politique?
Alors, pape politique, oui, oui. Je le crois profondément, à la fois sur la scène internationale, pas politique au sens où lui-même se disait, alors c'est la traduction de l'italien, rusé ou roué, c'est-à-dire un homme conscient des difficultés qu'il rencontrait et donc qui s'est voulu stratège dans sa conduite des affaires intérieures de l'Église. Donc effectivement, un pape très politique.
Comment s'est traduit cette politisation du pape, selon vous?
Alors, au niveau international, par une implication très forte dans les affaires du monde, c'est un pape qui s'est fait ou qui s'est voulu à la fois médiateur, on y reviendra, dans un certain nombre de conflits. C'est un pape qui a mobilisé le Saint-Siège et la diplomatie du Saint-Siège autour de questions humanitaires. Mmh. Et c'est un pape qui s'est fait également, et c'est peut-être là que l'aspect politique apparaît le plus, je dirais protestataire, dans la continuité de la doctrine sociale de l'Église, mais en la renforçant, protestataire contre un ordre libéral international qu'il condamnait. Ce qu'il appelait la mondialisation de l'indifférence signifie qu'il condamnait très fortement les conséquences négatives à ses yeux d'une mondialisation.
Est-ce qu'il était isolé dans cette prise de position, le pape François ?
Alors, il était isolé, je dirais oui et non. Je crois que le clivage progressiste-conservateur, qui a un sens, mérite quand même d'être atténué ou complexifié. Sur la doctrine, le pape a peu fait avancer les choses. Mmh. Il lui-même disait, finalement, la doctrine, on la connaît, je n'ai pas besoin de revenir en permanence dessus. Quand on le critiquait en disant, mais vous ne rappelez pas suffisamment les points habituels. Là où il a montré une ouverture intéressante, c'est, je dirais, dans sa pastorale. Et c'est sans doute ce qui contribue ou a contribué à sa popularité. C'est-à-dire, lorsqu'il parlait de l'Église catholique comme d'un hôpital de campagne, ça signifiait qu'il voulait s'adresser à tous ceux qui, pour différentes raisons, étaient loin de l'Église catholique, les périphéries. Les périphéries, dans son vocabulaire, emmener l'Église catholique vers les périphéries, c'était aussi bien les périphéries géographiques. Il est allé en Mongolie, où il y a moins de 1500 ouais. chrétiens, mais ce sont également les périphéries existentielles. C'est-à-dire des personnes qui, à ses yeux, blessées par la vie ou pour différentes raisons, ne se retrouvaient pas dans l'Église, dans son message, dans sa doctrine. Et pour ces personnes-là, il a voulu se situer dans une pastorale d'accompagnement, d'ouverture. Le symbole, c'est la phrase qu'on a retenue, même si finalement les choses sont plus compliquées à l'égard des homosexuels, qui suis-je pour juger ? La doctrine, elle n'a pas évolué sur l'homosexualité. En revanche, effectivement, son attitude a été de dire « je suis en dialogue, je suis à l'écoute par rapport à différentes personnes ». Même chose par rapport aux divorcés remariés.
Alors, on pourrait citer ça, effectivement, sur de nombreux sujets. L'IVG aussi, il avait comparé l'interruption volontaire de grossesse à l'embauche d'un tueur à gages. Et il n'a pas fait évoluer l'Église sur la doctrine de ces sujets-là. Dominique Volton, finalement, est-ce que François, ça a été beaucoup de mots et finalement, qui n'ont pas abouti aux actions attendues ou espérées, selon, évidemment, comment on se place?
Moi, je dirais presque la phrase à l'envers.
Okay. C'est-à-dire qu'il a lancé énormément de choses et que naturellement toutes n'ont pas abouti, mais que quand même, la première chose, moi ce qui me frappe, c'est le premier pape de la mondialisation, c'est-à-dire qu'il a été compris par tout le monde, il parlait à tout le monde, il était compris par tout le monde, et c'est un pape en colère. Mmh. Et il a lutté contre la puissance de la richesse et de l'argent. Il n'a rappelé que les choses de l'Évangile, mais il les a rappelées avec une force incroyable. C'est un pape en colère. Et surtout, c'est une double identité qu'on n'a pas assez réalisée en Europe. C'est une identité italienne avec, évidemment, la tradition de la migration, d'où sa position radicale et constante. Si on n'accueille pas, comment peut-on intégrer, comme il disait. Et d'autre part, l'Amérique latine, que nous, les Européens, là, nous ne connaissons pas assez, où il y a eu énormément de violences, de dictatures, de collusions entre l'Église et les régimes autoritaires. Donc c'est quelqu'un qui est en colère, qui a vu, contrairement à un Européen, les limites de la politique américaine, alors que nous voyons les limites de la politique russo-soviétique. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas de notre univers et en même temps qui a parfaitement eu ses racines italiennes de révolte et de migration. Et il s'est adressé, je pense que c'est ça la force des mots qu'il a employés, même si tous les combats n'ont pas été gagnés, il s'est adressé d'abord aux pauvres.
Mmh. Oui, il s'est adressé d'abord aux pauvres. Mais comment ça s'est traduit? C'est trop tôt pour mesurer l'impact?
Oui, c'est trop tôt, si vous voulez. D'accord. La tragédie de notre démocratie, c'est que nous vivons, là, on est déjà dans les émissions de radio, de télévision et les réseaux, de savoir qui va être élu et quand et comment. Mais la force de l'Église, c'est que ce n'est pas qu'une institution. Si c'était une institution au sens classique des sciences sociales, elle aurait disparu depuis longtemps. Le génie, la force et l'incroyable de l'Église, c'est que c'est à la fois une institution plus autre chose. Mmh. Des mystères, etc., qui font qu'on y croit, on n'y croit pas, mais qu'il n'y a pas que la puissance des rapports de force politiques, surtout quand on voit la taille du Vatican. Mais ce qui est, comme toujours pour un pape, ça se joue à une ou deux générations. Le clergé de François, ce sera un clergé qui sera formé face à la mondialisation, face aux inégalités, et quand on voit le désordre, pour ne pas dire pire, depuis 6 mois... On comprend bien que là, quand il dit qu'en définitive, toutes les valeurs sont bafouées, il a raison. Donc, ce qui restera, je pense, de lui dans les mouvements d'idées mondiaux, c'est colère, appel à la justice, appel à la bonté aussi. Et si je puis dire, les pauvres les excluent avant les riches, c'est-à-dire ce que dit l'Église tout le temps, mais qu'elle n'a pas fait longtemps, ni beaucoup.
Mmh. Père Luc Forestier, on ne vous a pas encore entendu. En tant que prêtre, comment est-ce que vous avez vécu ce pontificat du pape François ?
Ah ben avec intensité, parce que si vous voulez, c'est un pape qui a quand même eu des gestes tout à fait spectaculaires. En réalité, tous les papes sont politiques. Tous les papes sont politiques depuis 1929 de manière particulièrement forte. On va fêter dans quelques années le centenaire des accords du Latran. Et au fond, là, l'Église catholique n'a jamais eu un tel rôle sur le plan politique. Donc ça c'est tout à fait considérable. Et moi, je dirais que c'est le pape des gestes. Pensons à son premier voyage à Lampedusa. Pensons à son geste sur l'écologie, pensons à aussi la célébration où il est tout seul sur la place Saint-Pierre de Rome en plein confinement, où en fait il lance une parole d'espérance. Oui, c'est ce type de geste qui est tout à fait frappant et qui a, je pense, frappé bien au-delà des sphères du catholicisme. Là, je suis frappé depuis ce matin par le nombre de pasteurs ou de prêtres orthodoxes qui m'envoient un petit message en me présentant leurs condoléances ou en disant qu'ils pensent à nous. C'est tout à fait frappant. Donc là, on voit bien, si vous voulez, que le pape François n'est pas seulement l'homme des paroles, il est l'homme d'abord des gestes qui, du coup, si vous voulez, induisent une transformation, non pas sous le mode autoritaire et descendant par un texte qui normerait tout, mais par la manière dont d'autres gestes sont possibles parce que lui-même a ouvert des portes. Et je dirais le point le plus important en termes de vie intérieure de l'Église catholique, c'est certainement le processus synodal qu'il a lancé. Ça, c'est quelque chose qui va forcément rester. D'ailleurs, on ne sait pas très très bien dans quel sens ça va aller, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a gouverné dans ce sens-là jusqu'au bout, jusqu'à des décisions qui ont été récentes, qui ont été rendues publiques il y a quelques semaines. Ouais. Ça, c'est très très spectaculaire.
Et le synode qui s'est tenu de 2021-2024, hein, effectivement, où les clercs et les laïcs du monde entier ont été réunis pour évoquer l'avenir de l'Église, et il y a eu des propositions de réforme qui ont été transmises au pape. À quoi aboutiront-elles? Ça, c'est effectivement un autre sujet. Père Luc Forestier, je posais la question à François Mabille. Est-ce que le pape, justement, vous évoquez, et Dominique Volton a parlé d'un pape en colère, vous évoquez un pape qui tendait la main. Est-ce que au sein de l'Église, il était isolé sur ces prises d'opposition-là? À quel point il était soutenu?
Oui, alors il est isolé. Oui, le pape est isolé parce que le pape est seul. Il y a un seul pape. Même quand il y avait le pape Benoît XVI, il était émérite. Bon, donc oui.
Mais il y a une curie, il y a une gouvernance.
Voilà. Alors, si vous voulez,
et puis il y a les catholiques du monde entier, il y a 1,4 milliard de catholiques dans le monde.
Oui, oui, vous avez raison. En fait, il y a un paradoxe dont il n'est pas complètement sorti, qui est qu'il est à la fois lancé un mouvement synodal qui est considérable, vous l'avez rappelé à l'instant, de 2021 à 2024, mais c'était anticipé dans le synode des jeunes de 2018 et même dans les deux synodes sur la famille de 2014 et de 2015. Mais en même temps, il a gouverné de façon très verticale. Mmh. Ça s'est vu de façon très, très précise.
Il est décrit comme autoritaire, d'ailleurs.
Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est de dire autoritaire, parce que enfin, ça, c'est un jugement de valeur. Mais on peut simplement dire qu'il a pris des décisions, au fond, oui, de façon assez ferme. Mmh. Et donc, il y a une sorte de tension intérieure, qui était celle aussi de Jean XXIII. Quand Jean XXIII convoque le Concile Vatican II, 1962-1965, c'est un acte qu'il prend seul. D'une certaine manière, c'est l'acte le plus autoritaire de l'Église catholique d'un pape au XXe siècle. Donc au XXIe siècle, certainement que ce geste de lancer un processus synodal et qui va s'inscrire dans une longue durée, ça c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire qu'il peut faire parce que dans l'Église catholique, le pape bénéficie d'une autorité mondiale qui lui est reconnue par tout le monde, enfin dans l'Église catholique évidemment. Alors bien sûr, c'est pas sans poser des questions sur le plan œcuménique pour les autres églises chrétiennes, mais en revanche, et tout à fait frappant comme geste aussi, c'est les gestes vis-à-vis de l'islam et du judaïsme. Mmh. Là, il y a eu la déclaration fraternelle avec le grand imam d'Al-Azhar, par exemple, ça a été quelque chose de tout à fait spectaculaire, qui a encouragé celles et ceux qui essaient de dialoguer avec des musulmans. Et donc ça, c'est énorme comme mouvement, mais ça n'est pas achevé. Évidemment, aucun pontificat de ce point de vue-là est achevé parce que l'Église est en marche jusqu'à la consommation des siècles.
Ça n'est pas achevé, François Mabille, et ce n'est pas quantifiable. Alors, le dialogue interreligieux, mais on peut évoquer toutes les choses qui ne sont pas achevées, la lutte contre les abus sexuels, qui n'est pas achevée. Il y a la question de l'homosexualité. Vous avez évoqué cette phrase que François avait prononcée dans l'avion de retour du Brésil en juillet 2013. « Qui suis-je pour juger ? » Les lignes n'ont pas officiellement bougé au sein de l'Église. La bénédiction des couples homosexuels qui a été refusée notamment par les églises catholiques africaines. Est-ce que François pourrait en faire plus ?
C'est difficile à dire. Je pense qu'il a pris conscience à la fois de certaines oppositions et puis au-delà des oppositions, je dirais, et c'est classique dans l'Église catholique, c'est une institution qui se veut à la fois unitaire, unifiée, qui est très hiérarchique, très centralisée et qui fait face tout de même à une très grande diversité de situations. Mmh. Les catholiques ont des identités extrêmement diverses. Et donc, parler en même temps à un catholique de Mongolie, où le pape s'est rendu, à Gilly Vance de l'autre, à un Français du Berry et à un Africain de Kinshasa, c'est assez difficile. Donc le pape a tenté effectivement de maintenir cette unité, tout en promouvant un certain nombre de thèmes correspondant à sa volonté réformatrice. Et bien évidemment, dans ce cadre-là, ça suscite des réticences. Et en même temps, ce qui était dit est vrai. Il y a un certain nombre de processus qui ont été lancés et qui, soit perduront, quitte à avoir des inflexions. Vous voyez,
ça,
par exemple,
dépendra,
la réforme de la formation des prêtres. On ne sait pas si le prochain pape continuera dans le même sens ou pas. Sur la question, par exemple, vous évoquiez les relations avec l'islam. Les relations avec l'islam, elles ne datent pas du pape François. En revanche, il y a eu une inflexion, dans un sens d'ailleurs très beaucoup plus politique. Le fameux document sur la fraternité humaine, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est de dire, on constate que l'Église catholique et les chrétiens n'ont pas partout la liberté religieuse, et notamment dans un certain nombre de pays musulmans, et donc on veut mettre en place un principe de tolérance et de coexistence. C'est un document signé. Il y en a eu d'autres du même genre qui ont été signés, y compris plus récemment en Indonésie. Ce type-là d'action, de prise de parole, a un impact concret localement, mais c'est également dans le temps qu'on verra s'il y a des effets ou pas, et si le prochain pape continue dans la même perspective ou réinfléchit dans un autre sens ce type de dialogue.
Mais puisque vous relancez sur le dialogue interreligieux, est-ce que cette initiative, elle est d'augure à apaiser le dialogue interreligieux ?
Oui, je pense. Mmh. Alors, bien évidemment, il faudrait à la fois parler sur le plan global et dans des situations concrètes. Mais je vais prendre un exemple. Lorsque le pape se rend en République centrafricaine, à un moment où, précisément, il y a des tensions intercommunautaires avec des tensions religieuses entre chrétiens et musulmans, le fait de pouvoir aller à Bangui, dans la cathédrale, parler de réconciliation et ensuite se rendre dans le quartier musulman de Bangui a été un moment extrêmement important. Et là, une sorte de médiation qui ne dit pas son nom, mais qui a apaisé tout de même les tensions. Donc vous voyez, il y a à la fois les discours globaux, il y a à la fois des déplacements. Le pape s'est rendu en Irak où il a rencontré le grand imam chiite Sistani. Donc ce sont là, je dirais, des images, des symboles qui sont donnés et qui peuvent avoir un impact. Et puis ensuite, il y a les situations locales comme celle de la RSA que j'évoquais.
Il y a eu des vrais, Père Luc Forestier, il y a eu des vrais actes pour vous de la part de François, au-delà des prises de position. Quand je posais la question à François Habib, est-ce qu'il pouvait en faire plus? Par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait aboutir l'ordination d'hommes mariés? Il y a une autorisation qui a été donnée à certains laïcs mariés de devenir prêtres, qui a été votée à la majorité. François a préféré reporter cette décision.
On voit bien que, si vous voulez, chez le pape François, il y avait la volonté de maintenir ce que disait à l'instant François Mabille, c'est-à-dire la volonté de maintenir l'unité de l'Église, et que sur ces questions-là, il y a de puissants clivages entre les Églises, pour des tas de raisons essentiellement culturelles, d'ailleurs. Et c'est vrai que...
Faire plus, c'était le risque de fracturer l'Église ?
Oui, il y a de véritables risques sur cette question-là, comme sur d'autres, d'ailleurs. Hein. Et on voit bien, chez nos frères et sœurs chrétiens, d'autres confessions chrétiennes, que c'est effectif, ce type de fracture. Donc, je comprends, de ce point de vue-là, une véritable prudence. Je dirais que sur l'action très concrète du pape François, il y a, par exemple, des éléments qu'il faut aussi retenir de son pontificat, par exemple, sur le plan culturel. La lettre sur la littérature, par exemple, ou bien la lettre sur la question de l'histoire, sont des éléments qui sont tout à fait frappants. C'est la première fois qu'on a un pape. Alors, il y avait déjà une lettre aux Arcistes de Jean-Paul II, il y a eu des précédents, mais là, sur la littérature comme élément tout à fait essentiel à la formation, cette lettre est très frappante. Elle a d'ailleurs un écho bien au-delà des cercles catholiques, encore une fois. Et donc là aussi, c'est une manière, si vous voulez, d'honorer une dimension de l'humanité qui est d'ailleurs commune à toute l'humanité, la capacité à écrire, à vivre, à traduire ce que c'est que l'aventure humaine, et qui est essentiel à la formation. Donc on voit un certain nombre de secteurs comme ça, où ce n'est pas simplement des gestes spectaculaires, même si cela compte, mais aussi de véritables enseignements, en particulier sur l'écologie, par exemple. Ça, certainement, Laudato si a été un texte majeur, confirmé. Alors, est-ce qu'on peut dire que tous les catholiques sont entrés dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Non, évidemment que non. Mais il n'empêche que ça reste quand même comme un élément majeur et une construction doctrinale. De sorte qu'il y a aussi des éléments proprement doctrinaux, et par exemple, sur un élément auquel je suis attentif, qui est la question de la théologie. Sur la théologie, il y a eu un enseignement du pape François. Est-ce que cet enseignement est complètement reçu ? Je dirais que non, pour l'instant, certainement. Mais il y a là aussi un processus mis en œuvre, et maintenant, on verra bien la suite. Mais chaque pape s'inscrit, si vous voulez, dans un contexte. Et il est évident que depuis quelques mois, nous sommes dans un contexte radicalement nouveau sur le plan mondial, qui va demander certainement de nouvelles inflexions. Ça, j'en suis convaincu.
Donc la doctrine de l'Église a évolué sous François, pour vous ?
Oui, sur des points précis. Par exemple, la peine de mort, l'arme nucléaire, un point de friction d'ailleurs avec la France sur ce point-là. Donc non, il y a eu en effet de véritables enseignements, je dirais, du pape François, de manière assez différente par rapport à Benoît XVI, ça c'est absolument certain. Mais vous voyez, il ne faudrait pas simplement limiter à des gestes spectaculaires faits pour les caméras de télévision. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et alors, en particulier, pour moi, le plus profond, certainement, c'est ce synode sur la synodalité auquel vous faisiez allusion, avec le projet d'y associer et d'associer effectivement les autres églises chrétiennes. Nous avons besoin des autres églises chrétiennes, de manière effective. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire qui, je l'espère, sera prolongé autrement, en effet, autrement, ça c'est vrai, par le prochain pape.
Et évidemment, c'est ça que j'allais dire, la question qui découle de notre débat ce soir, c'est effectivement quelle suite sera donnée à l'action de François par le futur pape. François a-t-il fait évoluer l'Église ? La question qu'on pose ce soir, évidemment, au soir du décès du pape François, à l'âge de 88 ans. Mes trois invités sont Père Luc Forestier, que l'on entendait, qui est prêtre, chercheur associé à l'Université catholique de Lille, théologien François Mabille, qui était à mes côtés en studio, chercheur au CNRS, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux à l'IRIS, et Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS, directeur de la revue Hermès, à qui je veux à présent donner la parole. Vous avez entendu ce que Père Luc Forestier a dit en évoquant le risque, si François en avait fait plus finalement de fracturer l'Église catholique. Mais la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il aurait fallu fracturer cette Église catholique pour véritablement la faire évoluer et faire aboutir les réformes ?
Mais vous savez, il y a un bon nombre de chrétiens et d'autres qui pensent qu'il a beaucoup trop fracturé l'Église. Hein. Mmh. Moi, je crois que, si on veut une synthèse rapide, on peut dire trois choses. Un, il a fait bouger les choses du point de vue de la mondialisation, dans la critique des riches, dans la question des migrants, de demander l'écologie, la redistribution, c'est gigantesque. Les autres papes sont tous intervenus sur la mondialisation, mais pas comme ça. Et lui, il avait cette double légitimité Amérique latine-Europe. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il a essayé, on l'a dit, de réformer l'Église de l'intérieur, ce qui est probablement une des choses les plus difficiles, et où il y a là toujours le mélange entre l'institution et autre chose. Et la troisième dimension dont on a un peu parlé, mais que moi j'avais constaté, j'ai quand même passé plus d'un an et demi à le voir, lui, régulièrement. Donc je l'ai vu dans... Parenthèse, d'ailleurs, on ne dialogue jamais avec un pape.
Vous avez de nombreux entretiens avec François.
Ah, le livre comme il s'appelle, Rencontre entre le pape et moi, si je puis dire, mais je l'ai vu plus d'une 10-12 fois, à chaque fois plus d'une heure et demie, ça ne s'était jamais fait. Et d'ailleurs, on ne dialogue pas en général avec un pape. Et je ne sais pas par quel miracle cette communication humaine a été fantastique, possible, etc. D'ailleurs, elle restait discrète. Mais ce qui m'est apparu là, c'est la troisième dimension dont on parlait, c'est-à-dire l'amour de l'autre, l'espérance, la fraternité. C'est-à-dire qu'il avait un humour extraordinaire, une capacité critique fantastique, mais en même temps, il avait une espèce de douceur, d'humour, de gentillesse, et qui est la troisième dimension. Et en fait, c'est vrai, quand je dis que c'est un homme en colère contre les méfaits de la mondialisation, en colère contre l'égoïsme, etc., oui, essayer de réformer l'Église, et manifestement, il n'a pas cassé l'Église, il en fout plus que ça. Et l'Église a une capacité de résistance institutionnelle exceptionnelle, c'est même plutôt l'inverse. Et quand quelque chose peut se produire, ça joue à partir d'événements inattendus et forts. Et c'est l'exemple typique de Jean 23, avec Vatican II, et de ce qu'a essayé de faire Paul VI pour faire vivre Vatican II. Et naturellement, François, quand il vient de s'ouvrir, comme il vient de s'ouvrir dans son pontificat, sur la mondialisation et sa violence. Et je pense qu'il faut penser les trois à la fois, c'est-à-dire vraiment, bien sûr que Jean-Paul II était aussi dans la mondialisation, mais pas de la manière dont on a parlé, parce que c'est le premier pape non-européen. Mmh. Il est jésuite, il est latino, ce sont des choses qui changent complètement sa vision du monde. Par exemple, on ne comprend pas pourquoi il est beaucoup plus critique à l'égard des États-Unis que nous ne le sommes, nous, à l'égard de la Russie, parce que par définition, ce qu'il a vu comme domination et tragédie en Amérique latine, c'était par les États-Unis, pas par la Russie, qui était d'autre côté. Donc, il y a toute une vision que nous n'avons pas suffisamment eue de son histoire et de la représentation qu'il avait de l'histoire du continent latino-américain et du reste du monde. Et par contre, quant à la constitution de l'Église, il a essayé de faire des choses. Il a quand même fait rentrer la première femme à la curie. Alors, on va dire, bon, c'est pas grand-chose, mais c'est tout de même déjà ça. Sur l'homosexualité, il y a une position qui a quand même été beaucoup plus ouverte, sauf naturellement sur la pédophilie, où là, le problème est de toute autre nature. Mais cette ouverture qu'il a, en nommant autant de cardinaux qu'il l'a fait des régions du monde où il n'y a pas du tout de tradition chrétienne, c'est un risque. Je lui ai dit plusieurs fois, Saint-Père, vous savez très bien que vous nommez des cardinaux qui sont beaucoup plus conservateurs que vous. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien que l'Église devienne un jour catholique. C'est-à-dire qu'elle soit vraiment mondiale. Et donc, il avait parfaitement conscience des risques du prochain conclave. Et pas seulement du conclave, mais moi, je pense que c'est la question générale de la réforme. Celui qui essaie de faire des réformes est toujours perçu comme celui qui met en cause l'ordre établi, etc. Ben oui, mais c'est la seule condition pour essayer de faire bouger les choses. Mmh. Et dernière chose, j'ai été frappé par la personnalité. J'ai jamais vu un dirigeant au niveau international comme ça aussi libre intellectuellement. Voilà. Mmh. Et ça veut dire une intelligence exceptionnelle qui a dépassé tous les conformismes. Et il avait raison quand on a dit à la fin de son pontificat, il était autoritaire, oui, mais toutes les personnalités fortes qui veulent faire quelque chose en très peu de temps, parce qu'une dizaine d'années, c'est pas grand-chose, ont évidemment ce défaut qu'on lui a reproché d'autoritarisme. Juste une dernière chose que je veux dire, il faut du temps pour que l'Église digère.
Et c'est trop tôt, de toute façon, vous nous dites, voilà. Pour évidemment évaluer l'héritage de François, mais il y a eu des paroles et des actes, vous nous dites ce soir, Dominique Volton, et c'est intéressant parce que vous avez évoqué la capacité de résistance de l'Église. François Habille, est-ce que François a fait baisser cette capacité de résistance de l'Église, et en ça, est-ce qu'il l'a fait évoluer? C'est-à-dire... On a longtemps parlé on a souvent parlé des catholiques traditionnels qui ont pu empêcher certaines actions du pape François, qui ont pu l'empêcher de faire aboutir certaines réformes.
Bah, écoutez, moi je pense que l'une des questions qui se pose, c'est quand même celle de la place d'une personnalité, quelle qu'elle soit, dans une institution, et notamment une institution internationale. C'est-à-dire qu'il y a les impulsions que le pape peut donner, et puis il y a tout de même la façon dont les catholiques se mobilisent, dont les églises locales s'organisent ou pas. Là, ce que l'on voit bien, effectivement, pour différentes raisons et dans des contextes très différents, c'est qu'il y a toujours effectivement des formes de résistance, qu'on appelle une sorte d'intransigeance à l'égard de la modernité, alors qu'il se lie aussi bien en Pologne qu'aux États-Unis ou par exemple en Afrique. Voilà, son action peut avoir eu une influence par rapport à ces mouvements-là de résistance, même si, là encore, il ne faut pas caricaturer ces prises de position. C'est-à-dire que si on regarde ces analyses, ces prises de position, par exemple, par rapport au courant conservateur nord-américain, on trouverait un certain nombre de prises de position communes, par exemple avec Angie Devans qu'il a reçu hier. Bien sûr, les modalités, les approches sont différentes, mais il y a quand même par derrière quelques approches ou quelques thèmes qui sont identiques, même s'il y a également des oppositions. Les oppositions, c'est sur l'immigration, c'est sur le nationalisme américain, ça sera bien évidemment sur l'environnement. En revanche, sur d'autres thèmes, la conception générale de la famille, la question de l'avortement, la question de la liberté religieuse et de la place du christianisme dans les sociétés, on pourrait manifester assez rapidement des convergences. On oublie généralement de mentionner certains discours du pape. Lorsqu'il rencontre le patriarche Kirill en 2016 à Cuba, je vous invite à lire très attentivement le communiqué, et vous verrez que ce communiqué reprend finalement l'approche critique du patriarche Kirill à l'égard de ce qu'on appelait autrefois l'Europe de l'Ouest. On pourrait reprendre également le message et les discours du pape en Hongrie devant Erdogan, Viktor Orban,
le Premier ministre.
Tout le monde s'attendait à une opposition frontale autour de la question des migrations, et en fait, il y a eu également des discours plutôt proches sur la question de la liberté religieuse en Europe. Donc vous voyez, les lignes de fracture ne sont peut-être pas toujours celles que l'on croit.
François Habille, je vais poser une dernière question large, mais qui fait synthèse, parce qu'en vous écoutant, vous et nos deux autres invités, finalement, on répond à la question, François a-t-il fait évoluer l'Église? Oui, vous nous dites.
Oui.
Mais comment a-t-il fait évoluer l'Église?
Je pense que c'est par son attitude générale, par les phrases. Alors bien évidemment, il n'y a pas que les phrases, on l'a dit, mais pour l'opinion publique, pour les médias, les phrases, les gestes ont une dimension symbolique importante. Donc vous voyez des phrases comme la mondialisation de la différence, comme qui suis-je pour juger, la Méditerranée comme cimetière, des déplacements très symboliques comme Lampedusa ou d'autres déplacements, on pourrait d'ailleurs dire également Marseille, mais pas que. Je pense que ce sont les symboles d'une vision assez perspicace sur l'influence qu'on peut avoir en termes de communication. Et c'est en cela également, pour en revenir à votre première question, que ce pape est assez politique.
Pierre-Luc Forestier, la nomination finalement du futur pape déterminera la volonté ou non de l'Église d'évoluer, en poursuivant ou non l'héritage de François ?
Oui, alors c'est pas une nomination, c'est une élection. Effectivement, ça va dire beaucoup, en effet, de la manière dont les choses vont se passer, et c'est ce qui est en train de se discerner dans les congrégations générales, qui donc sont en train de se réunir, enfin à partir de demain, je crois, et vont donc préparer le conclave. J'ajoute que le pape François, il y a aussi un grand mouvement populaire, parce que c'est un homme qui était très populaire, et qui avait une grande attention aux dévotions populaires. Et donc ça, c'est quelque chose qui touche évidemment beaucoup de nos frères et sœurs, parce que c'est une manière très concrète d'exprimer sa foi, et c'est très important pour le pontificat qui vient de s'achever.
Et d'ailleurs, il y a énormément, effectivement, de fidèles, hein, qui, d'ailleurs, on le voit là, sur nos télévisions, qui affluent sur la place Saint-Pierre, parce qu'il y a la prière depuis quelques minutes, la prière
pour le pape François sur la place Saint-Pierre de Rome. Merci beaucoup à vous trois pour ce débat du jour. Oui, François a fait évoluer l'Église, mais comment ? Bah, l'avenir nous le dira, c'est ce que vous nous répondez finalement. Merci à vous trois. Merci. Donc Père Luc Forestier, qui est prêtre, chercheur associé à l'Université catholique de Lille, théologien, Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS, directeur de la revue Hermès, et François Mabille, chercheur au CNRS, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux à l'Institut des relations internationales et stratégiques, puis votre ouvrage Le Vatican, la papauté face à un monde en crise. Merci à Arnold Assewa, qui était à la préparation de ce débat du jour, et à Maël Guyot et Olivier Roux à la réalisation. Ils sont deux ce soir. Merci beaucoup à eux. Et restez à l'écoute de la Radio Mondiale, parce que dans 30 secondes, ce sera le grand journal du soir. Et dans la foulée, eh bien, une nouvelle édition spéciale. On va remonter le fil de cette journée.